Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez Histoire du soir avec Olivier. Et donc ce soir, c'est déjà la 7e d'Histoire du soir. Nous sommes le 26 mai 2016 et nous partons ce soir pour une mission, si je puis dire, historique, qui va nous emmener très très loin. Très loin à la fois dans le temps, puisqu'on va s'intéresser probablement à ce qui est un des plus vieux peuples encore existants, des plus vieilles civilisations de notre monde, hein, et puis évidemment qui se situe par rapport à l'Europe, à notre vieille Europe, à notre hexagone, notre zone géographique si tourmentée ces dernières semaines, ces derniers mois, vraiment à ce qu'on peut appeler au sens propre comme au sens figuré du terme les antipodes. En effet, ce soir, je vous emmène en Océanie. L'Océanie, qu'est-ce que c'est? C'est le 6e continent, hein, continent principalement composé d'ailleurs d'îles, hein, dont la plus grande d'entre elles, vous le savez, s'appelle l'Australie. Ce gigantesque îlot continent, hein, tout à fait considérable, qui représente un peu plus de 7 millions de kilomètres carrés sur les 8,5 millions que représente l'Océanie. Autant dire que c'est un élément majeur, hein, de ce 6e continent. 6e continent, je le rappelle, composé aussi d'autres îles célèbres comme la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, hein, par exemple, ou encore cette île que possède toujours la France, qui est la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour comprendre déjà la distanciation, si je puis dire, géographique, hein, de là où nous partons ce soir, hein, à la découverte de ce peuple aborigène, hein, peuple aborigène quand même dont les dates extrêmes, hein, retenues par les ethnologues, par les anthropologues, nous amènent quand même plus de 100 000 ans, hein, avant notre ère, hein, ce qui est quand même tout à fait considérable. Hein. Alors, cette Australie, rapidement, quelques chiffres quand même qui vont donner une idée, hein, de la démesure, hein, totale de ce dont on va parler ce soir. À l'heure actuelle, hein, en 2016, elle est composée à peu près de 22 millions d'habitants, hein, et sa superficie représente, hein, à elle seule, à peu près 14 fois la France. Et donc on aura compris, hein, 22 millions d'habitants, taille de 14 fois la France, hein, et vous avez compris qu'elle était 3 fois moins peuplée. Hein. C'est la majorité, hein, à l'heure actuelle, hein, de ce pays, qui fait partie des pays dits occidentaux développés, si on peut dire, hein, se regroupe dans les immenses mégapoles, hein, qui sont sur la frange pacifique, hein, c'est-à-dire la frange est, de cet ensemble, hein, qu'est l'Australie, avec des grandes villes comme Brisbane, comme également Sydney ou encore Melbourne. Mais nous n'allons pas faire une émission sur l'histoire de l'Australie ce soir, mais sur précisément les aborigènes. Encore quelques chiffres qui sont tout à fait significatifs. Il y a 25 760 km de littoral, qui représente donc tout ce qui fait la circonférence de cette île continent. Et il faut en avion, à l'heure actuelle, un peu plus de 4 heures pour tout traverser. Quant à la distance, je vous laisse rêver sur Paris à Sydney, Sydney qui est en gros la capitale économique, qui se situe sur la frange Est, eh bien, c'est une distance de 16 950 km. C'est absolument considérable. Se rendre là-bas, c'est faire en moyenne à peu près 20 heures de vol avec au moins une escale sur le trajet. Donc c'est encore, peut-être même encore aujourd'hui avec la Nouvelle-Zélande, avec Tahiti, avec d'autres points extrêmes comme ça, c'est encore une destination très lointaine et un monde qui nous apparaît comme lointain à nous, Européens. De même d'ailleurs, en ce qui concerne, bien sûr, les habitants, les Australiens, que ce soit les aborigènes ou les habitants, occidentalisés, pourrions-nous dire, c'est tout à fait pareil, c'est un lieu extrêmement lointain, on s'y rend une fois, deux fois dans une vie, même si au rythme de la mondialisation, de la globalisation, pourrions-nous dire, cette distance-là et l'image que je vous présente ce soir est en train d'évoluer, bien sûr, à une vitesse absolument faramineuse. Disons que ça reste encore une distance extrêmement lointaine. Alors, bien sûr, ce dont je viens de vous parler, le descriptif rapide de cette île continent, bien sûr, c'est un monde qui a été façonné, on l'a bien compris, par la colonisation occidentale, néerlandaise dans un premier temps, et ensuite, disons-le, anglo-saxonne, principalement britannique, puisque c'est en 1788, donc à la fin du XVIIIe siècle, que l'Australie est devenue un territoire de front pionnier, colonie pénitentiaire dans un premier temps, on l'oublie souvent, de la couronne britannique. À l'heure actuelle, l'Australie fait toujours partie du Commonwealth, c'est-à-dire que le Premier ministre, qui s'appelle Monsieur Turnbull, Malcolm Turnbull, qui est Premier ministre australien depuis septembre 2015, a au-dessus de lui, comme chef de l'État, la Reine d'Angleterre. Même si, bien sûr, l'autonomie totale de l'Australie est garantie, nous sommes dans le monde du Commonwealth, tout comme l'est également le Canada, un État fédéral aussi, dont la Reine d'Angleterre est le chef de l'État. C'est la même chose également dans le cas de l'Australie. Mais alors, bien avant, bien sûr, et c'est ça qui nous intéresse ce soir, bien avant tout cela, eh bien, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, puisque ce peuple existe toujours, eh bien, si l'on peut dire, les habitants d'origine de cette île continent, que l'on appelle donc les aborigènes. Alors, déjà, aborigènes, de quoi parlons-nous? Il s'agit à l'origine d'un mot latin, c'est-à-dire ab origine, qui signifie depuis l'origine. En gros, cela signifie de façon très claire une façon de désigner la population autochtone, des autochtones d'origine qui étaient là au moment où la colonisation britannique a commencé. Alors, je le disais tout à l'heure en début d'introduction de cette émission de ce soir, on a à peu près aujourd'hui la certitude que ce peuple est venu peupler l'île continent australienne à peu près, sans doute, avec une date extrême, dont je l'ai dit tout à l'heure, de 125 000 ans, c'est plutôt 75 000 ans, à un moment où, effectivement, se déplacer à pied pour se rendre dans les îles de la Papouasie et de Timor, puisque c'est à peu près aujourd'hui ce que l'on pense que la population en fait des aborigènes viendrait pour origine donc des îles du Nord. L'Australie, on le voit sur une carte, est complètement isolée géographiquement, isolée par l'océan Indien, isolée par l'océan Pacifique. Mais au nord, effectivement, c'est un climat de type tropical, d'une part, et surtout, il y a les territoires les plus proches, qui sont ces archipels donc de Papouasie, de Nouvelle-Guinée, de Timor, l'Indonésie. Tout ça est assez proche des côtes australiennes. Et en effet, on sait aujourd'hui à peu près que ça n'est seulement que 50 000 ans avant notre ère que l'île australienne, si je puis dire, est devenue totalement inaccessible. Donc on pense qu'effectivement, avant, ces populations ont pu, de façon exploratoire, bien sûr, se rendre dans l'île australienne et commencer à la peupler. Donc voilà pour les origines. Quelques mots aussi sur ce qui caractérise, et dont on parlera ce soir, cette culture, cette civilisation aborigène. Ce sont des mots comme le Wangina. Le Wangina, ce sont des dessins tout à fait énigmatiques dont on parlera en fin d'émission. C'est d'autres mots comme Uluru, qui sont des monolithes naturels qui se situent au centre de l'Australie, dans la terre même sacrée des aborigènes, qu'on appelle les terres rouges, qui est un monolithe gigantesque, évidemment sacralisé par les aborigènes. Ce sont des peintures diverses. Ce sont des ustensiles de chasse tout à fait complexes, comme le boomerang. Tout le monde sait aujourd'hui que c'est ce qu'est un boomerang, mais est-ce que l'on sait effectivement que son origine vient de ces peuples-là? Et puis également une musique extrêmement complexe utilisée par ce peuple. Alors, on a aujourd'hui fait des recherches également au niveau du génome des aborigènes pour essayer de comprendre effectivement d'où ils peuvent venir, et effectivement on a bien une origine probable du nord, des archipels du nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dont on a parlé tout à l'heure, et une arrivée environ 70 000 ans. Ce sont les chiffres à peu près certains, il y a beaucoup, je vous ai donné des dates extrêmes tout à l'heure exprès, mais on est à peu près certain sur cela, sachant que effectivement à partir de 50 000 ans avant notre ère, suite sans doute à une montée des eaux, à des cataclysmes naturels qu'on ignore, mais qu'on comprend hélas aujourd'hui avec les problèmes climatiques que l'on connaît, cette île-continent devient une véritable île-continent isolée, non seulement au niveau, bien sûr, des êtres humains qui y habitent, les aborigènes, qui vont donc se développer leur civilisation de façon complètement autonome. C'est tout à fait intéressant, autant dans le monde ailleurs, sur les autres continents, le continent eurasiatique, bien sûr, dans les Amériques. On a une interconnexion entre les différents peuples, alors que là, on a vraiment un phénomène tout à fait intéressant d'un peuple complètement isolé et qui va développer sa culture, sa civilisation pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, parce que dans le compute, pourrions-nous dire, historique ou préhistorique de ce peuple, tout cela va durer, si on se risquait, et pourrions-nous nous y risquer dans des choses aussi complexes, à faire un petit calendrier, une petite chronologie, on dirait moins 50 000 ans jusqu'à 1788 de l'ère chrétienne. Il y a toute cette période-là, c'est la période de l'apothéose, pourrions-nous dire, de la civilisation aborigène, que eux-mêmes vont appeler dans leur langue, eh bien, ce que l'on appelle, et je trouve le terme absolument merveilleux, le temps du rêve. Le temps du rêve, c'est toute la période de la civilisation aborigène qui donc se déroule jusqu'au moment où un jour, eh bien, les Occidentaux vont mettre pied, si je puis dire, sur les plages de l'Est australien, et on le sait bien, l'histoire a retenu la baie de Botany Bay, où le capitaine Cook débarqua à la fin du XVIIIe siècle pour ensuite bien fonder ces fameuses colonies britanniques dont nous allons parler tout à l'heure, et évidemment provoquer un choc évidemment entre ce peuple complexe et évidemment les Occidentaux, choc que l'histoire avait connu déjà auparavant, je ne vous rappellerai pas le XVIe siècle, deux siècles auparavant, avec la découverte des Amériques, tant Amérique centrale, Amérique du Nord qu'Amérique du Sud, et un choc qui a partiellement anéanti non seulement les peuples indiens du Nord, bien sûr, c'est toute l'histoire de la conquête de l'Ouest, mais également les immenses empires dont on a déjà parlé, si raffinés, si développés, qu'étaient les empires aztèques, les empires incas, qui ont été anéantis effectivement par ce choc avec les occidentaux ou les colonisateurs qui venaient donc d'Europe. Alors, il se passe évidemment, il va se passer, on va le développer largement dans la l'heure que nous avons ensemble ce soir, il va se passer la même chose, c'est-à-dire une confrontation de type colonial. Bien sûr, j'oubliais également tout à l'heure de citer aussi l'Afrique, bien sûr, qui a été également, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique noire plus particulièrement, évidemment témoin de ce, victime de ce même type de choc. Alors il va se passer la même chose qui s'est passée effectivement aux Amériques, qui s'est passée en Afrique, la même chose en effet, d'une façon d'ailleurs à peu près similaire, mais avec des conséquences tout à fait différentes, ou peut-être plus dramatiques encore, je ne sais pas, va se produire en Australie. Alors, ce temps du rêve des aborigènes, avant la fin du XVIIIe siècle, avant 1788, eh bien, c'est une période... où déjà, et je vous renvoie sur la carte que j'ai mise sur Facebook, sur la page notamment de l'émission, je vous renvoie pour cela à la remarquable carte et au travail d'un ethnologue australien, qui est à la fois entomologiste, anthropologue, archéologue et ethnologue, qui s'appelle Norman Tindale, ça s'écrit T-I-N-D-A-L-E. Ces dates sont 1900-1993, et cet homme s'est employé toute sa vie à essayer de reconstituer notamment la cartographie des tribus, des entités tribales aborigènes dans l'Australie, pourrions-nous dire, au moment de la conquête par les Occidentaux. Il est arrivé, cette carte est remarquable, on la trouve assez facilement sur Internet, à reconstituer 250 tribus différentes qui étaient là au XVIIIe siècle et qui recouvraient tout le territoire. Souvent, dans l'imagerie de la question des aborigènes, on s'imagine que le continent australien était sous-peuplé, qu'il n'y avait personne, voire qu'il n'y avait absolument rien du tout quand les Occidentaux l'ont colonisé. Absolument pas. Il y avait là, effectivement, une population extrêmement dense, alors certes, évidemment, dérisoire, par rapport aux 22 millions d'habitants, puisque Tindale est arrivé à reconstituer un peuple de 350 000 donc aborigènes à la fin du XVIIIe siècle, répartis donc dans 250 tribus. Et cette carte ethnologique, qui est extraordinaire, regroupe, recouvre vraiment l'intégralité du territoire de l'Australie. Donc, un pays, une île continent, densément peuplé depuis des dizaines de milliers d'années par ce peuple qui avait développé sa propre culture, avec une mythologie basée sur des créatures géantes, des dieux créateurs, 250 tribus, je le disais tout à l'heure, 250 cellules tribales, hein, comportant chacune leur langue, leur loi, leur code, hein, leurs frontières, hein, et évidemment un rapport à la Terre, hein, pourrions-nous dire, et aux forces, si on peut dire, telluriques, etc., tout à fait considérables et développées. Et également des connaissances, on en parlera tout à l'heure, hein, des connaissances astronomiques tout à fait remarquables. Et voire même qui déroutent, hein, dérouteront même les scientifiques qui s'y intéresseront. Alors, rapidement aussi, ce continent australien, il faut savoir qu'il est à peu près connu des débuts des grands navigateurs dès le XVIe siècle. Effectivement, dès 1522, on va l'appeler la Nouvelle-Hollande, la Hollandia, sur les premières cartes, les premiers portulans du XVIe siècle, on voit une terre étrange comme ça, située dans l'hémisphère sud, écrit Hollandia, sans vraiment des frontières d'ailleurs, assez floues. Une exploration partielle au début du XVIIe siècle également, hein, par les Hollandais. Et puis donc c'est vraiment le XVIIIe siècle, les Britanniques, hein, qui vont effectivement prendre pied et installer ces colonies pénitentiaires et installer surtout fermement des colons, hein, pour, bah, comme d'habitude, hein, comme en Afrique, comme en Amérique, hein, tout simplement exploiter, hein, les ressources, hein, on y trouvera notamment de l'or, hein, les ressources importantes du continent, du sous-continent ou de l'île continent australienne. Alors que dit le capitaine Cook au moment de la fin du XVIIIe siècle à propos des aborigènes? Vous allez voir, c'est assez éloquent, je cite. En réalité, ils sont bien plus heureux que nous les Européens. Ils vivent dans la tranquillité qui n'est pas troublée par l'inégalité de la condition. La terre et la mer leur fournissent toutes les choses nécessaires pour vivre. Ils vivent dans un climat agréable et ont un air très sain. Ils n'ont aucune abondance. Alors voilà la première impression. Et c'est vrai, comme dans le cas de l'Amérique centrale avec Christophe Colomb, deux siècles avant, au départ, tout se passe bien, mais à partir du moment où les aborigènes vont s'apercevoir, hein, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes évidemment que les autres, hein, on cherche à exploiter leur terre, à l'utiliser à leur place, à prendre leur place tout simplement, bah, ils vont bien sûr se révolter. Alors, la première phase, hein, de cette période coloniale, bah, elle va donc de 1788, hein, jusqu'à 1813. Hein, c'est effectivement Sydney, hein, c'est assez intéressant. Beaucoup de musées, hein, de la ville de Sydney reconstituent d'ailleurs cette époque coloniale, hein, eh bien, qui sera le noyau, hein, pour nous dire, hein, de la mise en place de la colonisation. Hein, bien sûr. Également, on en reparlera tout à l'heure, juridiquement, les Britanniques vont édicter un décret, hein, indiquant que la terre qu'ils ont découverte était déserte, hein, terra nulla, on en parlera tout à l'heure, hein, tout simplement pour justifier l'inutilité d'avoir à prendre contact éventuellement avec quelconque indigène. On considère, hein, qu'il n'y a personne et que, bah, puisqu'il n'y a personne, bah, on va s'emparer, hein, autant que faire se peut de ce immense territoire. J'insiste là-dessus parce que il faut savoir que ce décret, eh ben justement, dans toute la phase de la reconquête, pour nous dire, des droits des aborigènes, hein, qui va se dérouler au XXe siècle, bah, il sera tout simplement annulé. Et ça, ce sera un geste très fort et très important, hein, dans cette période de la récupération des droits, hein, des aborigènes. Hein, tout cela sont des choses, évidemment, qui sont très peu connues, hein, sauf pour les personnes qui s'intéressent, bien sûr, à l'histoire de cette partie du monde. Deuxième phase, hein, cette fois-ci beaucoup plus dure, hein, parce que là il va y avoir de la résistance des aborigènes contre évidemment les colons. Hein. C'est la période 1813-1834, hein, où les Britanniques vont franchir la première barrière naturelle, hein, en gros, avant de se répandre un peu partout dans le sous-continent, le continent australien, hein, qui sera donc de franchir les fameuses Blue Mountains. Donc là, effectivement, ce sera le début, hein, d'une phase beaucoup plus, comment dire, dure. Parallèlement, pareil, affrontement, puisqu'on découvre au sud de l'Australie une grande île qui s'appelle la Tasmanie. Pareil, elle sera conquise également avec donc des affrontements. Et puis, bah, arrive évidemment, on est à la fin du 18e, on est donc au 19e, hein, le développement des technologies, la vapeur, le train, le télégraphe. Et ensuite, derrière tout cela, bien sûr, eh ben, devinez quoi, comme au XVIIe siècle, hein, les mêmes, au XVIe, XVIIe siècle, hein, ce sont les mêmes travers, par exemple, dire, des histoires de colonisation, eh bien, ce sont les religieux, les pasteurs, hein, qui, bien sûr, se font une véritable mission sacrée, pour nous dire, hein, que d'évangéliser tous ces aborigènes, hein, qui, bien sûr, sont considérés comme des adorateurs d'idoles, que l'on considère évidemment à tort, hein, comme des inférieurs. Enfin, on connaît ce discours, donc qui évidemment est une erreur totale, bien sûr, hein, durant toute cette période, et qui, bon, bah, évidemment, va passer derrière, hein, les colonisateurs. Eh bien, ça va être donc de tenter d'évangéliser tous ces peuples. Alors, affrontement, bien sûr. Affrontement contre l'installation du chemin de fer, contre les lignes télégraphiques, contre la modernisation, bien sûr, dans tous ces territoires gigantesques. Hein, vous savez qu'une grande partie de l'Ouest australien est un désert gigantesque, hein, et qu'en fait, tout ce qui concerne la conquête ferroviaire sont deux grandes lignes, hein, qui existent toujours d'ailleurs, une ligne sud-nord, hein, que l'on appelle le GAN. Hein, on l'appelle le GAN parce que c'est un train donc construit par les Britanniques à l'aide de chameaux qui ont été, si je puis dire, ramenés d'Afghanistan par bateau pour justement aider à la construction mécanique, hein, et à la pose des rails. Et puis une autre ligne qui s'appelle le Pacific Express, hein, déjà on rêve quand on entend un nom comme ça, hein, et bien qui est effectivement un train qui va de la côte ouest, hein, jusqu'à l'est. Voilà, c'est à peu près les deux grands axes, il y en a d'autres bien sûr aujourd'hui, hein, mais c'est un peu sur cette grande croix, pour mieux tout dire, ferroviaire, hein, que les axes de développement donc coloniaux vont se faire, et bien sûr, dans tout simplement l'histoire de nos aborigènes, eh bien, ça va être le temps de la résistance, hein, le temps de la révolte, hein, contre, bien sûr, donc les Occidentaux. Alors, toujours pareil, hein, il se déroule, bien sûr, on l'a dit, un choc évidemment de civilisation, un choc technologique, un choc religieux, on l'a dit tout à l'heure, hein, et puis, eh ben, comme dans le cas des autres grandes civilisations qui ont été confrontées à l'Occident, il y a aussi le fameux choc bactériologique, hein, je sais qu'on parle toujours, hein, en plus, bien sûr, hein, des raisons militaires, pourrions-nous dire, ou de la ruse, hein, que l'effondrement, hein, on est toujours frappé de voir comment est-ce que l'un des armées de millions d'hommes, hein, que possédaient les Aztèques ou les Incas aient pu s'effondrer devant une centaine de conquistadors, hein, dans le cadre de la conquête de l'Amérique latine. Bon, ben là, c'est un peu la même chose, il va y avoir un choc épidémiologique, hein, les maladies donc ramenées par les Européens, eh bien, vont effectivement, maladie inconnue, hein, frapper les systèmes immunitaires des aborigènes et en décimer une bonne partie. De même, bien sûr, hein, la chaîne alimentaire, ça c'est un peu moins connu, est complètement perturbée puisque les Occidentaux vont, donc les Britanniques principalement, vont donc installer des plantations de fruits, de légumes, que bien sûr, qui n'avaient absolument rien à voir, hein, avec l'alimentation donc des aborigènes. Alors, comment, par exemple, voit David Collins, hein, un des secrétaires du gouverneur de la ville de Sydney, hein, comment voit-il les aborigènes au moment, justement, de la conquête, hein, pourrions-nous dire, du milieu du 19e siècle. Ce sont juste trois petites citations de trois témoignages différents qui sont intéressantes. Alors pour lui, je cite, « Tant qu'ils penseront que nous les avons dépossédés de leurs terres, ils nous considéreront comme leurs ennemis. » Et partant de ce principe, ils ont attaqué les personnes blanches à chaque fois qu'il leur a été possible de le faire. Constat évidemment tout à fait dramatique de ce que je viens de dire, hein. Bien sûr que les aborigènes prennent conscience, hein, évidemment du fait que, bien sûr, les occidentaux viennent prendre tout simplement leur terre et leur place, hein. Ils ne sont pas dupes, évidemment, ils n'ont pas grand-chose pour lutter contre des armes à feu et une technologie évidemment qui leur est nettement supérieure, mais néanmoins, ils s'en rendent compte. Voilà. En 1847, un autre Britannique, du nom de London, déclara « Nous nous sommes emparés de ce pays, nous avons abattu ses habitants, jusqu'à ce que les survivants aient jugé sage de se soumettre à notre autorité. Nous nous sommes comportés tel Jules César, lorsqu'il prit possession de la Grande-Bretagne. » Donc là aussi, constatation, bien sûr, du fait colonial. Il ne s'agit pas de repentance ou quoi que ce soit, hein, mais bien sûr, les principaux responsables qui jonchent tout le 19e siècle se rendent compte, hein, bien sûr, donc qu'il n'y a pas du tout une terra nulla, hein, comme on l'avait dit du temps du capitaine Cook, hein, mais bel et bien une société, hein, bah, qui ne veut pas d'aborigènes, qui ne veut pas se laisser faire. Hein. Troisième témoignage, encore plus, si on peut dire, dramatique, hein. Nous sommes en guerre contre eux. Ils nous considèrent comme des ennemis, des envahisseurs. Ils considèrent que nous les opprimons et que nous les persécutons. Ils résistent à notre invasion. Ils n'ont jamais été vaincus. Et donc, ils ne sont pas des sujets en rébellion, mais une nation injuriée. Très intéressant, ça, de voir ça comme prise de conscience à cette époque-là. Une nation injuriée, et ils défendent, à leur manière, les possessions qui sont les leurs, de droits acquis leur ont été arrachés par la force. Donc, on a ce cycle, hein, pendant tout le 19e siècle, hein, avec des massacres importants, hein, d'aborigènes, bien sûr, hein, un cycle de résistance, hein, de réaction, et ensuite de massacres. Massacres plus importants, les plus tristement célèbres, hein, ont été ceux de Pinjarra, hein, et de Myall Creek, hein, où, effectivement, une bonne partie des populations qui se rebellent, tout simplement, sont éliminées. Et puis, alors qu'on entre dans la deuxième partie de notre émission, va venir le temps de l'après. Alors, le temps de l'après, qu'est-ce que c'est ? Le temps de l'après, c'est, évidemment, la longue période, hein, de la reconquête, hein, des droits des aborigènes, puisqu'aujourd'hui, hein, il faut le savoir, dans la société australienne, hein, ils sont certes sans doute la population qui souffre le plus de la pauvreté, hein, c'est absolument incontestable, mais qui ont en droit, hein, récupéré une bonne partie de leur terre. Il y a, à partir du moment où, en 1901, l'Australie va devenir un État indépendant, hein, dans le Commonwealth, hein, mais un État indépendant, c'est-à-dire un pays qui va avoir, hein, donc son État de type fédéral, hein, eh bien, un long travail politique, hein, alors mené évidemment par les élites, entre guillemets, politiques, d'inspiration, disons plutôt, de progrès, hein, c'est-à-dire de gauche, hein, généralement, une aide, hein, à la prise de conscience de la reconquête, hein, des droits, hein, des peuples donc aborigènes. On a bien eu tout à l'heure, hein, dans ce que je vous ai dit sur la question des réflexions faites par les donc certains coloniaux, hein, on a bien une prise de conscience. Hein. Prise de conscience de ce fait, comment dire, d'écrasement d'un peuple. Alors, cette lutte pour la reconquête des droits, elle commence avec des militants, hein, dont un certain Douglas Nichols, hein, à partir des années 30, hein, donc après la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale à laquelle l'Australie va participer, hein, faut pas l'oublier, les membres du Commonwealth, donc bien sûr associés militairement aux décisions de l'Empire britannique. Et ça, c'est plus à développer dans une émission consacrée à l'Australie elle-même, hein, à l'histoire australienne, mais il ne faut pas oublier effectivement l'implication dans les deux guerres mondiales du XXe siècle, une implication importante, hein, de ce continent australien. Alors les grandes manifestations des années 30, ben, la première vraiment importante est celle donc de 1938, qu'on appelle la journée du deuil, hein, une commémoration d'un massacre, hein, donc, qui a eu lieu un siècle et demi auparavant. C'est une date extrêmement importante que cette manifestation de 1938, que cette journée du deuil. Ensuite viennent les années 50, la Seconde Guerre mondiale se passe, là aussi l'Australie sera particulièrement touchée, hein, le Nord, hein, Darwin par exemple sera littéralement anéanti, hein, par les Japonais. Il ne faut pas oublier que l'Empire japonais dans la Seconde Guerre mondiale, hein, avait quasiment atteint les côtes australiennes, et que si on n'avait rien fait, l'Australie aurait très bien pu être envahie, hein, par les Japonais. Bon, fort heureusement ça n'a pas été le cas. Mais dans les années 50, donc, la lutte pour les droits des aborigènes donc, vont reprendre avec comme but d'obtenir, hein, par la suite le même mode de vie que les autres Australiens. Il s'agit vraiment, hein, d'avoir un peuple donc d'égaux, hein, tout simplement, donc, entre eux. En 1958, autre date très importante. J'avais évoqué Nichols tout à l'heure, hein, qui était un des principaux leaders, hein, de ces droits, cette conquête des droits. C'est la création donc du Conseil fédéral pour l'avancement des droits indigènes et des peuples, hein, évidemment aborigènes. Alors ça, c'est une date évidemment très importante. Et en 1967, les aborigènes, hein, sont officiellement donc comptabilisés dans le recensement national. Hein. La lutte pour les droits se poursuit avec 1971, qui est une date très importante, puisque c'est la première fois, hein, que un aborigène du nom de Neville Bonner, hein, B-O-N-E-R, devient le premier membre indigène du Parlement fédéral. Il siège dans le parti libéral pour le Queensland. Donc c'est très important, puisque cette fois-ci, on voit quand même le chemin parcouru. De 1788, le décret Terra Nulla, c'est-à-dire que non seulement les aborigènes seront combattus, mais surtout, on considère à la base qu'ils n'existent tout simplement pas. Il n'y a personne, c'est considéré comme, c'est quand même très fort. Autant Cortés au XVIe siècle, autant Pissarro n'ont jamais nié l'existence des civilisations qu'ils ont favorisées à anéantir. Faut bien le dire. Autant on n'a jamais nié, Christophe Colomb n'a jamais nié l'existence des Indiens de Saint-Domingue, hein, et évidemment l'Amérique du Nord, celle des peuples Sioux et autres Navarro, hein, autant là, non, ça n'existait pas. Hein. Et puis ensuite, il y a le choc, évidemment, et les massacres, pendant tout le 19e siècle, hein, qui jonchent tout le 19e siècle. Donc là, quand même, un chemin considérable en un siècle est parcouru. Puisque quand même, 1971, donc un aborigène se fait élire, hein, au Parlement, hein, et puis quand même, très vite, eh bien, à partir de 1976, démarre le mouvement, hein, de la restitution partielle des terres, hein, des aborigènes. Alors vous me direz, bien sûr, pas toutes les terres, puisque, on le sait, grâce à la carte de Tyndall, les aborigènes possédaient tout le territoire, hein, bien sûr, en 1783. 1788, ils étaient, hein, c'est 350, c'est 250 tribus, c'est 350 000 aborigènes recouvraient, hein, l'intégralité du territoire australien. Mais sur demande, bien sûr, eh bien, il y a un mouvement de restitution des terres, ils possèdent leurs terres, hein, comme tout un chacun, et surtout comme étant un peuple, peuple d'origine, hein, de cette immense île continent. 1988, bah, c'est l'année du bicentenaire, bien sûr, de la colonisation. Hein, Capitaine Cook, 1788, rappelez-vous. Hein, et de grandes manifestations ont lieu dans toute l'Australie. Hein, évidemment, concernant ces commémorations et les revendications, hein, des peuples aborigènes. Hein. On pourrait peut-être se risquer une comparaison de la lutte pour les droits civiques, hein, vous savez, dans l'Amérique des années 50-60, hein, les droits civiques des peuples noirs issus de l'esclavage, hein, notamment dans le sud des États-Unis, ben, ça fait un peu penser à ça. Il y a tout un tas de musées extrêmement bien faits à travers tout le territoire australien, notamment dans la ville, une grande ville du sud qui s'appelle Adélaïde, où un musée tout à fait remarquable, hein, sur les aborigènes, une sorte de mémorial, d'historial, hein, avec des films, des témoignages, etc. On tente, hein, on voit bien, évidemment, après toutes les horreurs du passé, d'essayer de préserver, de reconstituer une mémoire, hein, de peut-être ce temps du rêve, hein, ces milliers d'années, hein, de civilisation froissée, hein, par la période coloniale. Alors, bien sûr, tout ça se poursuit, et même jusqu'à une période assez proche, hein, puisque donc nous arrivons en 1992, année emblématique, 1992, rappelez-vous, hein, c'était la fameuse année, évidemment, hein, de la commémoration de 1492, hein, les fameux 500 ans, hein, de la découverte, dite découverte par Colomb, hein, des Amériques, enfin découverte comme on sait aujourd'hui de quelques îles des Caraïbes, mais bon, néanmoins, c'est l'histoire qu'il a retenue comme ça. Et en 1992, eh bien, le fameux décret, rappelez-vous, hein, ce fameux décret de terre inhabitée, terra nulla, hein, ou nullis, hein, eh bien, il est abrogé. Il est abrogé par le gouvernement australien, terra nullius, hein, je précise, terra nullius en latin. Hein, eh bien, il est définitivement rejeté par la Haute Cour de justice australienne. C'est terminé, cette espèce de décret injurieux, hein, pour cette civilisation qui était là depuis des dizaines de milliers d'années, hein, qui considérait que tout simplement il n'existait pas. C'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant et surtout d'extraordinaire de voir que, ben effectivement, à partir de là, ben oui, on va pouvoir essayer de reconstruire dans cette société australienne, hein, eh bien, un vivre ensemble, hein, tout simplement, entre les différentes communautés, à commencer par la communauté issue, bien sûr, de la colonisation néo-zélandaise et britannique. Alors, c'est donc l'abrogation de terra nullius entraîne, bien sûr, la reconnaissance de la propriété foncière ancestrale. Les mots sont importants. Hein. Propriété foncière ancestrale. C'est-à-dire que, effectivement, bah, les aborigènes vont avoir, hein, droit à la restitution, hein, de leur terre. Alors, bien sûr, ça va diviser, hein, bien sûr, tout cela, vous imaginez bien, hein, que ça va diviser la société australienne sur le plan politique en deux. Hein. D'une part, effectivement, des mouvements plutôt progressistes qui vont demander réparation en défendant les aborigènes, réparation de ce qu'ils considèrent comme un génocide. Là, bien sûr, le mot est à mettre entre guillemets parce que, bien sûr, comme vous le savez, c'est un terme extrêmement précis, hein, que le génocide, et donc encore faut-il voir dans quelle mesure sur le plan juridique, hein, il peut s'approprier à l'extermination de ces populations aborigènes, ont-elles été exterminées en tant que telles ou suite à des combats liés simplement à une conquête coloniale, hein, encore faudrait-il donc évidemment le déterminer, mais disons que bien sûr la tendance est de considérer qu'il s'agit vraiment d'un massacre ciblé, donc évidemment génocide. Et puis de l'autre côté, bien sûr, il y a les partisans de l'Australie, si on pourrait dire WASP, hein, à l'américaine, l'Australie, la terre donc des Blancs, hein, bien sûr, et qui a tendance à vouloir, bien sûr, à préserver une forme de ségrégation, hein, en laissant les aborigènes, si je puis dire, dans la misère. Donc ça, bien sûr. Ça va être un enjeu qui existe encore, hein, entre, disons, progressistes et puis ceux qui sont pour une forme, effectivement, de ségrégation. Cela dit, moi je me suis rendu, hein, j'ai eu cette chance, sur cet immense territoire, hein, il y a 2 ans de ça. Quant au Sion, tout ce que je vous ai dit là, on le voit très bien, on voit un est, extrêmement développé, où les aborigènes sont plutôt sujets, entre guillemets, d'attractions touristiques, hélas, hein, de commercialisation d'attractions touristiques, et puis un centre du pays assez pauvre, disons-le, avec, et parmi ce centre pauvre, les plus pauvres, c'est quand même les aborigènes, qui vivent évidemment de leur production, de leur peinture extraordinaire, dont j'ai tenté de montrer sur Facebook quelques exemples, hein, de cette peinture d'une richesse et d'une complexité, hein, à la fois religieuse et culturelle infinie. Hein, ce masque que j'ai mis sur Facebook aujourd'hui on est un exemple. Hein, on est vraiment dans un peuple extrêmement... extrêmement savant et complexe, tout simplement avec une évolution différente du nôtre. Hein. Ça ne c'est pas une civilisation matérialiste. Hein. Ce n'est pas pour autant, hein, que parce que les aborigènes n'ont pas choisi un développement matérialiste qu'ils seraient, si je puis dire, inférieurs à nous. Hein. C'est absolument absurde. Hein. Je renvoie pour tout ça aux magnifiques écrits, hein, de Claude Lévi-Strauss. Hein. Je ne rentre pas dans les détails car il ne me reste hélas plus que 15 minutes pour terminer tout ce que je souhaite dire sur les aborigènes. Alors on se dirige ensuite vers la période dite de réconciliation, hein, bien sûr. Alors on va valoriser bien sûr toute la culture aborigène, l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis un repentir assez important. En 1992, justement, la grande année de l'abrogation du fameux décret abominable, là dont je parlais tout à l'heure, le Premier ministre Paul Keating va déclarer la chose suivante. Nous ne pouvons pas imaginer, je cite, que les descendants d'un peuple dont le génie et la résistance ont maintenu une culture ici depuis plus de 50 000 ans, qui survécut à 200 ans de dépossession et d'abus, se voient nier leur place dans la nation. Culture de 50 000 ans, mes amis, et 200 ans de guerre coloniale, sur lesquelles je ne reviens pas. Je crois que tout est dit, hein, dans effectivement le cheminement, hein, qui a été celui de la nation australienne pour retrouver, hein, si je puis dire, et réintégrer, hein, cet élément essentiel de son identité, hein, bien sûr. 26 mai 88, on revient un peu en arrière, 24 000 signatures sont recueillies dans tout le pays, hein, pour que le jour du pardon, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, rappelez-vous les années 30, soit considéré comme un jour commémoratif pour la nation entière australienne. En 1999, le Premier ministre John Howard publie une loi sur la réconciliation. Et en 2000, 250 000 personnes traversent le Harbour Bridge, hein, le magnifique pont du port de la baie de Sydney, absolument magnifique, pour commémorer, hein, bien sûr, encore une fois, cette réconciliation. Enfin, en février 2008, ce sont les excuses publiques du Premier ministre Kenneth Rudd, qui dira, nous demandons pardon pour les lois et les politiques des parlements et des gouvernements successifs, qui ont infligé de profondes blessures, de la souffrance et des pertes parmi nos concitoyens australiens. Nous demandons surtout pardon pour le retrait des enfants aborigènes et indigènes du détroit de Torres et de leurs familles, de leur communauté et de leur pays. Voilà où nous en sommes, donc, si je puis dire, au début de la décennie 2010. Hein, nous sommes encore dans cette période. Hein. Et voilà ce qu'il en est. Un des moments les plus emblématiques, c'est sans doute, d'une part, les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Hein. Jeux Olympiques, vous savez, cet événement sportif qui a lieu tous les 4 ans, hein, et qui, bien sûr, montre au monde l'ouverture, bien sûr, du continent, de l'île continent australienne, avec l'aborigène, la Madame Cathy Freeman, hein, qui partira au départ de la finale de la fameuse épreuve de course du 400 mètres. Hein. C'est évidemment tout l'emblème, hein, tout l'emblème de la réhabilitation, dans un sens, hein, de ce peuple, la même Cathy Freeman qui allumera la flamme, hein, des Jeux Olympiques de Sydney. Tout le symbole est là, le 21e siècle se veut vraiment celui de la réconciliation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Rapidement, avant de terminer, dans une conclusion, vous allez voir qui va nous ouvrir vers les étoiles, hein, et je pense que c'est assez beau de s'imaginer, hein, cette civilisation multimillénaire, hein, qui était tournée vers les étoiles, hein, et on va voir tout à l'heure très rapidement pourquoi. Bien sûr, avec à l'heure actuelle, hein, au recensement de 2011, hein, près de 30% hein, du peuple actuel aborigène, dont la population est estimée à 670 000 habitants, hein, donc on voit bien qu'on a largement dépassé les 350 000 hein, dont on parlait au XVIIIe siècle, hein, population donc qui s'accroît, hein, et bien 30% de cette population vit bien sûr dans les territoires du Nord, hein, c'est-à-dire les fameuses terres rouges, hein, le fameux désert sacré où se trouve notamment le monolithe, de Uluru. La langue, hein, qui est parlée dans les territoires du Nord, la langue des aborigènes s'appelle le Murinbata. Voilà pour les mots de ce peuple que l'on peut citer. Alors, également, bien sûr, les aborigènes ont développé, hein, toute une culture de peinture, pour le moins, et c'est là-dessus que nous allons terminer notre propos de ce soir, pour le moins énigmatique. En effet, on peut parler effectivement de peinture tout à fait curieuse, au minimum religieuse bien sûr, hein, sur un site qui s'appelle Wangina, hein, dans le Nord-Ouest. En effet, les connaissances astrologiques, astronomiques surtout, hein, des aborigènes sont de plus en plus aujourd'hui étudiées et on s'interroge, hein, sur la connaissance des constellations qui pouvaient être, en possession de peuple, hein, d'un peuple qui vivait bien sûr dans une tradition orale, hein, et essentiellement de ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs, hein, au niveau de l'organisation de leur société. Rappelez-vous, en Afrique, hein, du peuple des Dogons, hein, qui a une connaissance toujours, encore aujourd'hui, inexpliquée, hein, non seulement de l'étoile Sirius, hein, qui est située à des milliers, des milliards, des millions de kilomètres hein, de nous, hein, et encore aujourd'hui, on s'interroge, hein, sur leur connaissance astronomique à ce niveau-là. Alors, le site de Wangina, hein, est intéressant parce que ce sont des peintures sur écorce, des peintures dans des grottes, qui sont censées représenter donc des dieux. Des dieux, donc au minimum de la période du temps du rêve, hein, c'est-à-dire entre 75 000, 50 000 ans, jusque 1788. Alors cette période représente donc des dieux que l'on présente comme étant, les aborigènes disent, comme étant venus du ciel, bien sûr, et surtout des dieux leur ayant tout transmis. Hein. Alors, bien sûr, tout ça est organisé autour de peintures rupestres, rituéliques, hein. Mais cela procède aussi, hein, c'est ça qui nous intéresse et sur quoi nous allons terminer, donc sur cette étrange site, hein, de Wandjina, hein, qui est évidemment de le relier à la théorie, je cite, de ce que l'on appelle les anciens astronautes. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'il s'agit là de représentations de ces dieux tout à fait originales, hein, avec de grands yeux, avec des visages triangulaires, bref, hein, des choses qui nous renvoient, nous, hein, en notre début de XXIe siècle, à ce qu'on appelle la culture ufologique. Alors, vous m'avez compris, le pas est facilement franchi, hein, de se dire qu'on aurait là, mais il n'y a pas que ce site-là, il y en a d'autres dans le monde, hein, on aurait eu là, peut-être, je dis bien, un contact, hein, entre ce peuple le plus ancien de la Terre, hein, avec peut-être d'autres civilisations venues des étoiles. Alors c'est un peu là-dessus que je vous laisse rêver sur effectivement une civilisation dont on commence à peine, hein, à aujourd'hui esquisser seulement la complexité, hein, et puis quand même, je pense qu'il y a toujours une petite leçon philosophique, hein, à retirer de tout ça. Parce que finalement, on a là un peuple qui s'est développé, une civilisation pendant 50 000 ans, 60 000 ans. Hein. Quelle est la distance entre notre monde occidental de 2016, hein, et le début de l'ère chrétienne, hein. Nous avons, dans la civilisation dite judéo-chrétienne qui est la nôtre, 2000 ans d'existence. La civilisation aborigène, dans la période la plus courte, hein, que l'on envisage, ce serait 50 000 ans d'existence. Et puis voilà qu'un jour arrivent de par la mer des peuples occidentaux beaucoup plus développés technologiquement, c'est normal, puisqu'ils ont réussi à venir jusque-là. Eh bien, voilà, j'avais déjà esquissé cette idée en faisant l'émission sur les civilisations mésoaméricaines. Je crois que nous devons avoir un profil bas, hein, sur ce qui pourrait bien arriver si un jour, en effet. Hein, et là, il s'agit simplement d'une éventualité scientifique, hein, étant donné le nombre d'exoplanètes que l'on découvre, hein, pratiquement toutes les semaines. Hein, si un jour, en effet, un peuple, hein, venait à notre rencontre, et bien sûr avec une technologie qui nous serait supérieure, car nous sommes incapables à l'heure actuelle d'envoyer même un être humain dans notre proche banlieue terrestre, à savoir Mars par exemple. C'est pas encore pour demain, hein, faut encore attendre 10-20 ans peut-être. Eh bien, que se passerait-il ? Je crois que c'est quelque chose que l'on doit méditer, et ce n'est pas du tout de la science-fiction que de dire ça, mais tout simplement se dire que peut-être le point nodal, hein, de l'émission de ce soir, eh bien, c'est de se demander quel est le lien finalement, hein, entre ce peuple extraordinaire que sont les aborigènes, dont les descendants sont toujours là, hein, sont toujours parmi nous, hein, bien sûr, hein, et notre monde ultra-technologique actuel. Est-ce que à un moment donné, ne devons-nous pas poser nos affaires et tout simplement nous asseoir à côté d'un feu allumé par un sage, écouter des chants aborigènes, s'asseoir dans le désert et contempler les étoiles avec eux et se demander peut-être quel est tout simplement le sens de notre présence dans ce monde. Voilà, je crois que c'est ça aussi l'intérêt d'avoir ce soir un peu parlé d'un peuple méconnu. Et j'espère, tout simplement, avoir donné envie à celles et ceux qui ont pu écouter cette émission, eh bien, d'en savoir plus, parce que je crois que la connaissance des autres, de leurs différences, eh bien, est une, sans doute une des plus belles conquêtes de l'humanité. Alors, je vous dis à bientôt. On va se retrouver, tout simplement, le jeudi 23 juin à 21h et nous conclurons le cycle 2015-2016 par une émission portant sur un autre point mystérieux, mythique et historique qui est le triangle des Bermudes, céréalité, cette zone étrange située au sud de la Floride, où néanmoins un certain nombre de phénomènes se sont produits dans l'histoire. On essaiera peut-être de comprendre ce que ça peut être. Donc, rendez-vous avec le Triangle des Bermudes le jeudi 23 juin. Je vous souhaite une bonne nuit. C'était Histoire du soir avec Olivier sur la web radio Terrazen. À bientôt.